Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 16 janvier à Cincinnati, dans l'Ohio, à une semaine du Royal Rumble. Et oui, le pay-per-view préféré de la rédaction du studio Catch Up approche. Et vous l'avez entendu, son petit rire là, de sournois, un petit peu comme ça, de chatouiller
narquois,
vos oreilles.
Narquois, ouais, genre.
Mais oui, évidemment, c'est Giscal qui m'accompagne. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Ah, j'en ai des frissons hein, quand j'entends ton petit rire comme ça. Je me pose des questions, est-ce qu'il, ouais. Est-ce qu'il se moque? Qu'il est dans
est-ce
la moquerie, on
sait jamais. Est-ce qu'il est encore en train de se foutre de moi?
C'est un tout face, on sait jamais qui il est vraiment.
Ou alors, est-ce qu'il se raconte des blagues tout seul dans sa tête?
Il vient peut-être de comprendre une blague de KP, de Kevin Patrick, hein, ton commentateur.
Peut-être, de mon grand ami Kevin Patrick, qui était entre deux respirations, en train de mettre sa ventoline, là.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il travaille un petit peu sa respiration, Kevin Patrick, il est toujours... Il va trouver sa place. Il est bien entouré.
Peut-être. Il est bien entouré, c'est vrai.
Tu veux le virer, de toute façon, on a bien compris.
Moi, je veux le virer, moi, comme un malpropre. Mais bon, écoute.
Le show rouge démarre donc avec nos commentateurs préférés. Et ce sont les Usos de la Bloodline qui débarquent avec Solo Sikoa. J'ai dit que la Bloodline est dans ta ville, à Cincinnati. Ils ont le contrôle de SmackDown, Giscal. Ils ont le contrôle de Monday Night Raw chaque semaine. Ce soir, Sikoa, notre bon Solo, a un match en solo, justement, contre Ali. Prince Ali, d'ailleurs, on parlera de lui. Hein. Je sais que Giscal se pose beaucoup de questions sur Ali. Est-ce qu'il sert à quelque chose?
Eh oui, je suis perplexe.
Ouais, il est superplexe, City. Mais ils doivent d'abord un petit peu te parler de ce qui s'est passé, justement, vendredi dernier, avec l'histoire de Kevin Owens. Hein. Kevin Owens, c'est pas possible. Kevin Owens, il ne peut pas aller chercher le chef tribal comme ça, sans qu'il y ait de conséquences, tout simplement. Hein. On ne va pas chercher l'embrouille.
Ah oui.
C'est
quoi ce bordel?
Voilà, il y a un peu de respect, bordel. Parlant d'ailleurs du chef tribal, quelque chose de très très gros, du lourd qui arrive pour le prochain Monday Night Raw. D'ailleurs, j'ai dit dans une semaine le Rumble, mais en fait, c'est deux semaines à ce moment-là.
Ouais.
Il y a d'abord l'Euro 30. Ouais,
C'est exactement, pas... la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine. Gros coup de chaud. Ouais.
30 ans de Monday Night Raw, c'est bien ça, Giscal?
Bah oui, c'est quand même incroyable hein, quand on y pense.
Quand Go Home Show n'aura ce...
Seulement quand on y pense.
Ouais, si t'y penses pas, c'est vrai que ça passe plutôt...
Non, si t'y penses pas, c'est pas si dingue que ça, mais sinon, c'est impressionnant.
Ouais. Et toute la famille, hein, génération entière de la Bloodline, hein, les petits-fils, les arrière-grands-pères seront là pour reconnaître le chef tribal. Donc on va avoir une cérémonie un petit peu de célébration. On va reconnaître le chef tribal. Il y aura toute la tribu. Hein, tous les Samoans seront là. Les Samoans seront là. Et ils vont en plus défendre leur titre contre le Judgment Day.
Et oui.
Les frangins Uso. Puisque le Judgment Day a remporté, grâce à Dominique et à Domino, le tournoi. Le Gauntlet Match, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Et Judgment Day, puisqu'on parle d'eux, apparaissent. Et Rhea Ripley est là. Alors, ils sont... Évidemment, Domino, maintenant, il a son nouveau look. Hein. Il a son petit bandana.
Ah bah ça y est. Voilà, de repris de justice, là. Ouais.
qui débarque. Et donc, Rhea Ripley, qui dit que la seule chose qu'ils veulent reconnaître, c'est que le Judgment Day est, c'est eux, les patrons d'Euro. Finn Balor a dit la semaine dernière, on a gagné le Gauntlet. On en a après les Uso, notamment grâce à l'ancien détenu Domino. Hein, il le remercie d'ailleurs, hein, Finn.
Ex-con.
Ouais, ex-con. Quand même.
Avec toujours Corey Graves qui est complètement... qui est complètement à fond dans le trip aussi derrière, donc c'est pas mal.
Ah, oui, mais oui, il en fait des tonnes. Il vit l'expérience à fond. Hein. Pour lui, vraiment, c'est Domino a survécu. Il a vu l'enfer, il est revenu, et maintenant, il nous raconte hein, ce qu'il a vécu. Donc voilà, la semaine prochaine, donc, ils vont récupérer les titres d'Euro. Et puis, Domino, c'était un face-off. Hein, c'était un face-off. Alors, Domino, il est là, il fait « Ouais, est-ce que je peux... ça sent quoi là? Ça sent bizarre !» Ah, mais c'est de la peur que je ressens en regardant les Uso, tu sais. Avec cette petite voix tremblante, comme ça, tremblotante, tu sais. Et puis, il a pas une intensité ouf, toi, le mec. Il est vraiment.
C'est Domino, quoi.
Domino, voilà, il tremble. Hein, c'est comme les Domino, il tremble.
Tu le connais,
Et puis donc t'as les deux autres qui se marrent parce que l'autre dit bah vous avez peur de nous. Alors, Jimmy et Jay, donc ils sont morts de rire, ils en peuvent plus quoi. Et puis et du coup bah qu'est-ce qu'ils font, ils reprennent un petit peu leur gimmick du pénitencier au zoo. Eh oui, on ressort
le gimmick. C'est de circonstances en plus.
Donc ils ont verrouillé toutes les équipes de la division tag team, ils les ont foutues derrière les barreaux. Et d'ailleurs, petit rappel, que leur règne avait débuté en battant Domino et son papou, Rey Mysterio. Et
ouais,
donc la boucle est bouclée là, on a fait le tour du pénitencier. Donc rendez-vous donc au pénitencier des Ouzo. Et les gars disent ouais, c'est
ça.
Ouais, ouais. Et Domino dit que si vous alliez en tôle, vous passerez pas une minute, vous survivriez même pas une minute et tout. quand tu sais que je pense que là, il s'adresse à des mecs qui ont une carte de fidélité.
Ouais, qui connaissent a priori.
qui ont une carte de fidélité avec le système judiciaire américain. Donc, c'était très drôle, quoi. Évidemment, c'était fait.
Bah, c'est pour ça que tout. Oui, ouais. Ça marche bien aussi.
Ouais, ouais, ouais. C'était trop bien.
Il a sans doute les deux plus gros loubards du roster, mais tu vois, legit, et le mec, lui, par contre, c'est le pire des pires.
Et puis après, il s'en prend à Solo, il dit ouais, toi, tu te prends pour un dur, mais en fait, c'est que du faux, quoi. Comment ça le chercher, t'as un wannabe qui se la pète, là. Et puis les deux commencent à faire, il y a un face-off, et puis t'as Rhea Ripley qui s'interpose à maman, là, à mamie, qui fait « Oh, t'as un problème, toi ?» Et les deux commencent à s'ambiancer, genre, ils vont se mettre sur la tronche, à Solo et Rhea Ripley. L'autre, il commence à préparer son pouce, là, il arme son pouce, hein, il veut gorger Rhea Ripley.
Et vas-y, pas de problème.
Et puis c'est la grosse brawl qui se termine par l'apparition de Ali, qui débarque... Diablo Vauvert, ouais, et
qui nous casse le truc.
Le truc, mais de ouf. Qu'est-ce qu'il fout là? Et qui attaque Solo Sikoa. Et ils auront un match juste après qui sera remporté, j'évacue, par Solo Sikoa, malgré toutes les galipettes de Ali.
Ouh, c'est ça. Bah, écoute, malgré la puissance de Mustapha Ali.
Bon, bah, que de loubar là, que des reprises de justice. Hein.
Que des loupards. Ouais, non, bah écoute, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire le contraste avec le Raw de la semaine dernière. J'avais été assez sévère sur cette introduction plus que dispensable et qui racontait pas grand-chose, hein, qui était vraiment du remplissage. Là, par contre, je rappelle, c'était avec Kevin Owens et Baron Corbin. Là, on était sur autre chose. Quel plaisir, enfin, quel kiff, là, le Judgment Day, c'est quand même exceptionnel. On sentait les Usos en face... on était quasiment, presque comme avec les segments de Sami Zayn. Tu sentais qu'il y avait Jimmy et Jay qui étaient au bord quand même de craquer par moment, hein, parce que tellement la partition de Domino était incroyable. Encore une fois, incroyable en flirtant sur cette ligne jaune qui est quasiment impossible à analyser, insondable de est-ce que c'est un génie de l'acting ou est-ce que c'est le pire des branlitos qu'on ait eu de mémoire récente, je ne sais pas, mais
j'ai pas envie de savoir, tout fonctionne. Je n'ai pas de réponse à cette question.
Non, j'ai pas envie de savoir, exactement, je veux pas savoir.
Est-ce
qu'il est nul ou est-ce qu'il est très très bon, je sais pas. Mais écoute, en tout cas, toujours est-il que ça donne des séquences exceptionnelles et voilà, et c'est tous les contrastes en fait qui fonctionnent très bien. Tu l'as dit, on a deux ex-stellars. Alors deux ex-stellars, je sais pas, parce que je sais plus, il y en a un qui a surtout des problèmes plus que l'autre, enfin je sais plus d'ailleurs.
Je crois que c'est Jimmy, parce qu'il y avait eu tout le délire avec Jay Uso qui pendant le
solo de Jimmy. Ouais, main event Jay et tout là, ouais. Mais bon, enfin en tout cas on a des vrais voyous, des vrais bad guys face à une énorme fraude. donc c'est très marrant. L'interaction avec y a eu énorme pop et grosse tension là, c'est vrai que Rhea Ripley qui s'interpose pour son protégé face à Solo Sikoa, c'était énorme. Juste après que, en plus Domino, il se sentait plus pissé. Enfin, tu sens que c'est limite, il est pris par son personnage, pris par son truc. Au début, il trash les Usos, tu te dis bon, ok, c'est rigolo. Et d'un seul coup, il s'en prend à Solo Sikoa, la brute derrière. Et tu te dis mais c'est n'importe quoi. Et t'avais Corey Graves qui validait le truc, c'est genre ouais c'est normal, t'es en prison, il faut s'en prendre au plus vénère de pour se faire respecter et tout, donc t'avais ce côté là où t'as l'impression que Domino il avait trop regardé des séries de policiers de Il essaie, il est trop regardé Oz, je sais pas si
ouais,
tu
connais cette série, mais
et donc là il se prend Domino's, donc là il s'en prenait au pire mec de la bande, donc tu sens que ça va partir en cacahuète. Et Rhea Ripley qui s'interpose, c'est énorme. Et au final, c'est Domino qui revient un peu, qui dit oh, attends, non, c'est ma mamie. Il se réinterpose lui aussi. Enfin, tout fonctionnait très bien. Et t'as l'intervention de Mustafa Ali qui presque qui casse le délire de tout le monde. Quoi. Tu sens que le stade presque, ça les faisait chier de voir Mustafa Ali débarquer. Et c'était d'ailleurs un petit peu le début de l'interrogation pour moi sur ce Raw, parce qu'après donc il y a eu la défaite de Mustafa Ali, qui, bah, globalement, sans coup férir, il y a quelques petites activités pendant le match, mais globalement, il s'est quand même bien fait défoncer. Et on en parlera, parce qu'après, il y a eu d'autres interactions dans l'émission. Il y a quelque chose... Vraiment, je suis très perplexe. Je comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec Mustafa Ali. Il a le rôle du vaillant babyface, mais en même temps, il est booké comme un énorme loser, géniard, qui s'accroche, mais personne n'a envie qu'il s'accroche. Enfin, c'est très, très étrange, et je ne sais pas ce que c'est vraiment le payoff de ce truc-là, ou alors il n'y en a pas, et ils n'ont personne d'autre que lui à agiter, on va dire, dans la low-card pour servir de punching ball.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est juste un outil parce que voilà, effectivement, un peu plus tard dans la soirée, il va s'embrouiller avec Dolph Ziggler. Ouais, c'est presque c'est ça qui est un peu chelou, c'est que est-ce que c'est un babyface, on ne sait pas trop. Il est parti embrouiller Dolph Ziggler. Il dit ouais, mec, chaque fois tu m'emmerdes, tu t'es intervenu dans mes matchs, tu veux pas faire équipe avec moi. Toi, c'est toi qui t'as opportunité sur opportunité, toi, Dolph Ziggler. Voilà, et puis il finit par l'embrouiller et puis il l'attaque tout simplement. Il le frappe et il dit est-ce que t'as mon attention maintenant, et puis voilà. Et c'est vrai que t'as plein de vidéos en plus, des fallout, des vidéos,
il y a même des vignettes,
où tu le vois se plaindre en permanence.
Donc donc le truc, c'est que tu as l'impression qu'il cherche à raconter quelque chose quand même, parce qu'ils y passent du temps avant le match contre Solo Sikoa. En effet, on l'a vu arriver dans le stade, il y avait une petite vidéo, il se faisait interviewer dans les couloirs à l'arrivée du stade en disant ouais, tiens, vous avez un match contre Solo ce soir, il avait fait une petite promo justement très babyface pour le coup, en mode ouais, moi j'en ai marre, ce soir je fight back, je tape en retour, j'en ai marre de me faire taper, machin, on me donne l'opportunité et tout, enfin un truc un peu vaillant quoi. Et puis au final il rentre dans un segment limite en par derrière, un peu en filant des comme un fourbe en attaquant Solo Sikoa par surprise, et puis après il s'embrouille avec Dolph Ziggler en pleurant comme le premier heel venu. C'est tout ça est étrange, parce qu'on a l'impression qu'ils essayent de nous embarquer sur quelque chose, et en même temps ça tient pas trop la route, je sais pas, c'est bizarre. Bon, tout ceci ne doit pas occulter le fait qu'on a eu quand même une sacrée intro de Raw, et un travail qui fait que ce title shot au Raw 30 de la semaine prochaine a été quand même super bien hypé, et a clairement toute mon attention pour le coup. Parce que autant il n'y a pas vraiment un suspense insoutenable sur le résultat, non. Mais je pense qu'on aura le droit quand même à une défense de titre extrêmement divertissante.
Ouais.
Et cette promo y a contribué, ça c'est sûr.
S'il y a toute la clique là du Journal Monday qui sont là, il va forcément se passer plein de trucs. Ça va être très. Ah ouais. Je pense que ça va être divertissant vraiment. On va bien rigoler, avoir des bons spots. Donc une bonne intro pour ce Monday Night Raw justement. Moi, il se passe pas mal de choses en coulisses à droite à gauche. Mais juste après le match, il y a aussi Kevin Owens qui allait foutre un stunner à Solo Sikoa après avoir faire le ménage. Ouais. Et les deux hommes se sont toisés. L'un depuis la table des commentateurs, je crois, Kevin Owens, et puis Solo Sikoa qui a battu.
Il a fallu les séparer.
Ah oui, ouais. Exactement. Ouais. Séparés par toute la clique des officiels, d'ailleurs.
Se venger.
J'ai cru que c'était une nouvelle faction de costard cravate qui s'était créée, parce que les mecs sont arrivés comme une nuée d'officiels pour séparer les Kevin Owens et toute la clique de la Bloodline. Donc voilà, on prépare une petite rivalité là, entre KO et Solo Sikoa, peut-être pour l'après Rumble. Il va peut-être se passer quelque chose.
Peut-être, en effet, en effet. C'est
parce
vrai.
Que là, les deux hommes se cherchent un peu les noises, mais bon, il y a comme Roman Reigns en ligne de mire pour ce pay-per-view de janvier. on arrive dans les coulisses, un petit, une espèce de micro-fil rouge qui s'est déroulé avec Bobby Lashley. Et puis on verra aussi MVP. Donc on a une petite vidéo de Bobby Lashley. Alors, parce que ce soir, on a un main event, qui n'est pas n'importe quel main event. Et c'est oui. Un six-man pack challenge, elimination match, pack elimination challenge gauntlet, match, pack, par élimination.
No DQ, machin, tout ça.
Avec voilà, six habitués des titres secondaires qui vont devoir s'affronter pour déterminer le challenger au titre d'Austin Theory. Donc on a pas mal de petits packages vidéo qui nous présentent différents protagonistes. On y reviendra un petit peu plus tard. La petite vidéo de Cody Rhodes, partie 45. Byron. Oui,
ça marche bien.
Ouais, ça marche bien. Byron, moi je les zappe, mais ça marche bien. Byron Saxton. Qui est devant le bureau d'Adam Pearce pour un petit peu savoir ouais, qui va avoir sa petite place au Rumble. Et il y a Elias qui confirme sa place. Il dit que c'est le moment de corriger son année. Pardon, excusez-moi. la petite toux. Et que ça a commencé par le Rumble. Et donc, il annonce qu'il sera au Rumble. Et ils sont embrouillés par MVP. Ouais, viens pas embêter Adam Pearce. J'ai un gros client là. C'est lui qui va remporter le Rumble. Et Elias voilà, se moque un peu d'MVP, il dit t'as pas été relevant depuis plus de 20 ans là, qu'est-ce que tu me racontes? Et l'autre lui dit bah écoute, si tu m'embrouilles, ce soir t'auras un match contre mon client qui va gagner le Rumble. Et Elias accepte. Et donc on verra un petit peu plus tard qui est le mec surprise. À ce moment-là, est-ce que tu te dis quoi? C'est un mec qui connaît déjà MVP ou c'est surprise?
Bah oui. Oui, en effet, parce que alors, du coup, c'était alors, c'était pas spécialement très finement joué, hein, mais la promo en fait jouait vachement sur la subtilité, comme quoi en fait on avait l'impression que MVP parlait de lui-même à la troisième personne. C'était un petit peu ça le truc, et Elias lui disait, mais attends, t'as pas été relevant dans le ring, dans le sens où je vais catcher contre toi, enfin je vais te défoncer quoi. Parce que en fait, il disait, ouais, Adam Pearce, attends, il était vu qu'il sortait du bureau d'Adam Pearce, il a dit un truc du style embête pas Adam Pearce, il était en rendez-vous avec le futur vainqueur 2023 du Royal Rumble et tout, et ça faisait un petit peu genre il était avec MVP qui va gagner le Rumble. Et en fait évidemment on verra plus tard qu'il ne parlait pas de lui parce que c'était beaucoup plus c'était un peu grossier. Et à ce moment-là, en effet, j'étais en train de demander, mais attends, alors ça va être qui? Parce que ça va pas être Bobby Lashley, c'est pas possible, puisqu'il est dans le Six Pack Challenge après coup. Donc qu'est-ce qui ils vont nous rajouter un nouveau mec? Et je ne pensais pas, en effet, que ce serait finalement un peu réchauffé au micro-ondes là, le retour de la même chose que ce qu'on avait eu auparavant.
On peut spoiler, c'est le retour d'Omos.
On peut spoiler. C'est le retour d'Omos. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu sur ce coup-là parce que il y avait une petite intrigue. Hein, il était alors je sais pas si c'était avant ou après parce qu'il est intervenu aussi avec l'équipe de Shelton et Cédric Alexander dans le show. Donc je sais pas, j'aurais aimé peut-être profiter peut-être de voir une nouvelle tête. Enfin, Omos, moi, ne m'enchante en guerre. C'est vrai que bah, ça a un peu fait pchit quoi, l'effet surprise de l'arrivée d'Omos quoi.
Ouais, bah voilà, moi c'est la petite déception. En fait, tout le long de la soirée, je me suis carrément ambiancé sur un nouveau. En fait, j'étais assez déçu. On va en reparler parce qu'il y a aussi l'histoire avec Cédric Alexander et Shelton Benjamin. J'ai l'impression qu'on préparait un coup une surprise avec MVP, toi.
Mais grave, ouais.
Nous ambiancer.
Ouais, je sais pas.
Voilà, donc typiquement un nouveau client, quoi. Ou un nouveau client. Et du coup, je me suis ambiancé à plusieurs moments. Et en fait, putain, tout ça pour Omos.
Pas du tout.
Voilà. Donc Omos, choc slam sur Elia, c'est donc la victoire d'Omos. MVP qui nous tease du rêve et qui nous vend des surprises. En fait, pas du tout. D'ailleurs, pour revenir à MVP, qu'effectivement tu as surpris en train de discuter avec Alexander ou Benjamin, ils ont un match justement, l'ancien Hurt Business. Oui. D'ailleurs, ils sont présentés en tant que Cédric et Shelton. Hurt Business, hein,
oui.
Donc officiellement, le Hurt Business n'est plus vraiment en activité. L'entreprise a été fermée, ils ont clôturé les comptes.
C'est dissous, tout ça, voilà. Dépôt de bilan.
Ils ont un match ce soir contre les Street Profits, Dawkins et Montez Ford. Et pendant le match, justement, un match plutôt bien rythmé, hein, parce que franchement, les mecs, c'est de la voltige, la technique. Montez Ford, il est chaud bouillant. Donc c'était plutôt c'était un bon match. Et pendant le match, MVP arrive ringside. En fait, j'ai pas toi, mais pendant tout le match, je me suis dit, attends, ça sent mon tourloupe. Il va faire un truc. Il est pas là pour Alexander ou Benjamin. Je me suis dit, il est là pour.
Bah oui, c'est bizarre.
Tu lui dis, son nouveau client, c'est Dawkins ou c'est Ford, et il va foutre le bordel. Il va foutre le bordel dans l'équipe. Il va y avoir, Montez Ford ou Dawkins, tout dépend ce que tu vas raconter. Soit un Montez Ford qui est la superstar solo qui a plus d'avenir en solo, plus de potentiel. Est-ce qu'ils vont le mettre en top heel, en rejoignant et en prenant les services MVP? Au contraire, c'est Dawkins qui va se retourner et du coup, on va monter une grosse rivalité pour mettre over Montez Ford. Je me suis ambiancé de ouf, surtout que MVP, pendant tout le match, il n'était pas clair dans ses intentions. Il jouait vraiment la quinte de, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Et en fait, à la fin du combat, MVP, il monte sur le tablier pour aider Alexander à éviter une prise. Mais même là, c'était embrouillé. Je pense qu'il y a eu un souci de réel, c'est pas possible. C'était pas bien synchro, c'était très flou. Et pendant ce temps-là, Benjamin et Alexander ont fait une prise à deux sur Dawkins. Et Alexander le couvre, son adversaire. Mais l'arbitre, il est embrouillé pendant ce temps-là. Et Angelo, il en profite pour faire il reverse, quoi, il contre. Et il fait un petit contre rapide pour la victoire. 1, 2, 3. Et après, Alexander et Benjamin, ils en ont après MVP. Et voilà. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ce bordel, il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé.
Non, c'était comme tu l'as dit, c'était très étrange. Alors que pourtant, j'avais l'impression, c'est con presque, parce que ils avaient piqué un petit peu l'intérêt de tout le monde. Enfin, je trouvais qu'il y avait un petit murmure quand il est arrivé dans le stade, tu sentais qu'il se passait un truc. On avait envie de savoir et tout, et en effet ça paraissait presque évident qu'il allait se passer quelque chose, surtout que c'était vraiment dans la foulée de ce petit segment qu'il y avait eu backstage avec Elias, MVP, Adam Pearce et tout, donc avec ce teasing que tout le monde avait compris que MVP ne parlait pas de lui pour ce soir comme adversaire d'Elias, et donc qu'il allait sans doute avoir une surprise et tout. Là, dans la foulée, le mec, il arrive, il s'incruste dans le match. Tu sentais que MVP tournait autour un petit peu de. Il était revenu un petit peu, à dragouiller Bobby Lashley. Il était un peu revenu aux affaires courantes. Il se cherchait des nouveaux clients et tout. Donc ça sentait le développement, la péripétie, la surprise et tout. Et en fait, on a eu quelque chose d'extrêmement sage et de presque carrément. Encore plus surprenant tellement c'était plat. On a eu un match, entre deux équipes, c'était en effet, comme tu l'as dit, très plaisant. Et petite distraction, une fin de match en eau de boudin, du classique à l'ancienne. Comme s'ils étaient toujours ensemble, finalement, les trois, avec MVP qui essaye d'aider ces deux anciens du Hard Business, il essaye de les faire gagner avec une bonne distraction. Il leur sert quasiment le truc sur un plateau. Et les mecs, en fait, ils sont tellement nuls que même avec ça, ils gagnent pas. Et puis c'est tout, quoi. Et donc, en fait, tu sors de là, tu dis, so what, quoi. Cédric, Alexander et Shelton ont perdu. Même avec une distraction, même avec un manager, ils y arrivent pas. Donc, qu'est-ce que MVP foutait là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Les Street Profits, ils repartent, ils ont fait le boulot. Donc, on est passé d'un truc assez excitant à quelque chose de complètement dispensable.
Ouais, assez, assez étrange, effectivement, assez étrange. Allez, on va parler du côté de la division féminine, si tu veux bien, avec Becky Lynch, la championne du peuple, qui reprend son gimmick de championne du peuple, en arrivant par la foule, même si là, elle nous a épargné le moment de malaise qui consiste à demander l'avis des gens qui sont dans le public, nous raconter leur vie.
Oui.
C'était assez, une expérience à ne pas renouveler. C'est très sympa quand tu y es et que tu passes le micro, même si tu es déjà été sélectionné en avance. Mais honnêtement, j'avais gardé pas un super souvenir de ce gimmick-là. Becky est dans l'arène, elle débarque, elle doit régler des affaires. Donc si Bailey, tu peux venir là, on a une petite embrouille à régler. Le damage control débarque. Bailey dit c'est humiliant, Becky, t'as oublié mon nom c'est Bailey et pas Karen, je suis pas en train de me plaindre là, à demander le manager, faites venir le manager. Il dit mais si, t'es Karen, elle dit non, je suis une personne, je suis un être humain et mon nom c'est Bailey. Et Becky dit ouais, t'es une grosse idiote. Elle se moque de son look. Ça vole pas très haut. C'est pas non. super bien rythmé. On a l'impression de trop.
C'est un peu poussif le début. Hein.
Dis, en fait, je me suis dit, elles avaient pas de ligne écrite, toi. Elles ont essayé d'improviser un truc. Ouais. Sauf qu'elles ont pas trouvé l'accord, toi. Franchement, tout était à contre-temps. C'était assez mauvais. On se serait cru de voir un stand-up, dans un cabaret français de stand-up de jeunes prodiges de comiques français et que t'es là, ok, c'est quoi ces pauvres vannes que t'as, voilà, qui font pas rire. Et puis Bailey dit ouais, tu digères mal la défaite. T'as toujours pas de copine. Tu dis moi si j'ai plein de copines. Regarde tous mes copains, ils sont là ce soir dans l'arène à Cincinnati. Voilà, ok, toi, on va chercher un peu la cheap.
C'est pareil, ça c'était vraiment très cheap.
L'autre, bah moi j'ai des copines, c'est mon clan, et puis on va reproduire l'histoire de 2015 quand t'avais pris ma place à WrestleMania. Donc il y a un peu de rancœur hein, de la part de Bailey envers Becky Lynch. Elle dit que lui avait pris sa place. Becky Lynch, elle était montée avec les Horsewomen, et puis elle était restée à NXT. Ça aurait dû être moi, la première femme main event de WrestleMania. Voilà, elle blâme tout le monde. Hein. Becky Lynch dit ouais, t'es toujours en train de te chouiner, c'est toujours la faute des autres. Elle lui dit ouais, attends, t'es devenue The Man parce que t'as donné un coup de poing à une femme, alors bravo, hein, c'est pas du joli-joli, frapper des femmes. Elle te dit bah, peut-être que je devrais t'en mettre une pour te réveiller. Voilà, super. Vous l'entendez, hein, j'ai trouvé ça vraiment. Nul. L'autre il dit ouais, bah d'accord, bah, on se retrouve la semaine prochaine. L'autre il dit d'accord, la semaine prochaine, mais attention, ce sera dans un match en cage. Bailey, ouais, d'accord, ok. Et c'est officiel, donc rendez-vous à Raw 30, le Raw triple X, hein, triple ration de X à Raw la semaine prochaine. Becky Lynch versus Bailey dans un steel cage match. Annonce du match, elle est cool, mais waouh, pour y arriver.
Ouais, c'était long, hein.
Ah ouais.
C'était compliqué.
Si long que de remonter toutes les marches que Becky Lynch a descendues, toi. C'était
bizarre, ce début de promo. Alors, je serais un peu moins sévère sur la deuxième partie, mais parce que ça commençait à aller quelque part, on va dire. Mais globalement, ouais, putain, c'était. Elles m'ont donné l'impression de deux nanas qui, limite, avaient reçu le pitch 5 minutes avant, en fait, de rentrer dans le stade. Dans l'arène. Ouais. C'était vraiment. Les filles, je sais pas, elles sont descendues de la bagnole ou elles sont arrivées au stade. On leur a donné la feuille de booking juste avant que leur musique arrive. Dire bon bah voilà, vous allez vous envoyer deux trois saucisses et puis après derrière voilà le fil conducteur, le thème c'est ça quoi. C'est nanana, t'es la chouchou et moi on m'a jamais aimé et tout ça et patati patata quoi. Et à la limite, pourquoi pas, parce que ça a permis ensuite de dérouler une promo, certes classique, mais globalement assez efficace, d'une Becky Lynch qui du coup peut se targuer de n'importe quoi. Je me suis construite toute seule, j'étais de toutes celles, et d'ailleurs elle a raison, enfin des quatre fameuses Horsewomen, même si j'aime pas trop quand elle joue trop sur la corde Horsewomen, comme si elle se revendiquait de ce truc-là, alors que c'est d'une certaine manière, c'est un peu un truc qui a été construit un peu par les fans et qui se réapproprie en quelque sorte, tu vois, de créer ce sorte de fantasme un peu, de fantasme de smart, là, de cette stable de 4 qui d'une certaine manière n'a jamais vraiment existé, mais donc, maintenant il la mentionne un peu partout. Je trouve ça toujours un peu forcé, mais bon, à la limite, pourquoi pas, parce que d'une certaine manière, en effet, voilà, Becky Lynch n'était clairement pas la plus avantagée des 4, ça c'est sûr, de très très loin même. Et c'est celle qui est partie du plus bas pour arriver au plus haut, et c'est une success story assez exceptionnelle, Becky Lynch. Et donc, on va dire que ça a été dur pour arriver jusque-là, mais la promo finissait à aller dans un sens où je trouvais que c'était assez cool, parce que du coup, Becky Lynch pouvait, en tant que bonne babyface, se targuer de ça et de s'attirer de la belle pop grâce à ça et tout. Donc ça, c'était bien. Et puis après, Bailey qui du coup, fait la pleureuse, à dire... C'est toujours relativement efficace quand Bailey fait sa carène un peu en quelque sorte là, voilà, mais ça marche pas trop mal, mais c'est vrai que toute la partie de Van juste avant était un peu pourrie, mais globalement c'est vrai que j'essaye de trouver un peu de positif sur le truc. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où là, c'était assez décevant, c'était long, Et d'une certaine manière, c'est vrai que je suis un peu déçu quand même de, parce que je pense qu'elles sont capables de faire tellement mieux.
Oh oui.
Elles ont une rivalité en or hein, quasiment hein, ces deux-là. Elles ont tellement d'histoires, tellement de choses à raconter. Bon, je suis sûr que le match va être top, mais il y a quand même moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça en termes de storyline et de booking pour Becky Lynch et Bayley. Donc c'est vrai que c'était une déception. C'était une déception. C'était un peu raté. J'ai trouvé l'annonce du match assez rigolote quand même à la fin, là, le coup de... Elle lui a fait accepter le truc par petits bouts, c'est en mode « Bon bah alors, puisque c'est comme ça, on va s'affronter. » T'as Bayley qui fait « Bah ouais, pas de problème. Bon bah alors, puisque c'est comme ça, on va s'affronter semaine prochaine. Ouais, ouais, bah, pas de problème. Bon bah, puisque c'est comme ça, on va s'affronter semaine prochaine un contre un. Ouais, ouais, ouais. Puisque c'est comme ça, on va s'affronter semaine prochaine dans un steel cage match. » Et là, t'as, d'un seul coup, t'as le visage qui change de couleur et tout. Ouais. Bah, c'était pas mal foutu, tu vois. C'était un peu en mode, elle s'est fait presque engrainer malgré elle dans un truc plus gros que ce qu'elle avait en tête. Et elle se rend compte que finalement, bah, elle va pas pouvoir compter sur ses copines. Et donc, c'était assez rigolo. Mais bon, ouais. Voilà, c'était pas...
Ouais, tu l'as bien résumé, voilà, moi, effectivement. En fait, j'ai l'impression que les deux... Enfin, Bayley, elle est super, mais elle a besoin que... Faut que le truc soit... Faut que ça ait démarré, toi. Et Becky, ouais. C'est un peu pareil, en fait. C'est des filles qui... Si elles n'ont pas le... Elles n'ont pas trouvé, ça ne sont pas encore dans le démarrage était hyper poussif, toi, et tu sentais qu'elles ne trouvaient pas le pied. Et il n'y en a aucune des deux qui, c'est étrange, hein, mais qui a...
Ouais, j'étais assez surpris, ouais, parce que normalement,
qu'elles avaient pas le talent,
elles sont capables normalement d'improviser.
Ah oui,
quoi.
C'est ça, ouais. C'est assez surprenant. Et même si ce n'est pas la première fois que je me fais la remarque, que là, effectivement, elles n'ont pas réussi à trouver comment démarrer vraiment à fond leur interaction. Rivalité.
Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'elles sentaient toutes les deux, à mon avis, que c'était un peu plat, c'était un ouais. peu, ça tombait un peu à plat leur truc. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, il y en a aucune des deux qui a vraiment réussi à prendre le truc en main et à rattraper ou à retourner un peu le coup, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'il y avait un peu deux promos dans une, c'est que d'un seul coup, quand elles sont parties sur, elles sont sorties de la blagounette pour ouvrir leur truc ouais. et qu'elles sont parties sur, tu sentais que là, elles avaient embrayé sur leur texte.
Oui.
Tu sentais que là, ça y est, c'était parti sur le script de la promo, enfin les talking points là, comme ils disent. Enfin voilà, on est dans l'histoire et tout. Voilà ce que vous devez raconter. Là, d'un seul coup, c'était reparti. Mais c'est vrai que la petite passe d'armes du début. Il y en a pas une qui a réussi à vraiment rattraper le bordel et c'est vrai que d'une certaine manière tu es en droit de leur en vouloir parce que c'est un peu deux grosses enfin c'est censé être deux top stars de la division quoi donc je suis pas sûr enfin on a pas mal d'exemples de gars en tête qui dans la même situation je pense auraient sans problème trouvé des artifices un peu pour rendre le truc beaucoup plus emballant quoi.
Comme je te rejoins, hein, pour moi, il va cette rivalité, il faut qu'elle continue là, parce que on a même à peine entreaperçu tout le potentiel pour cette rivalité qui doit être une rivalité là pour le printemps là, ça doit être la rivalité là qui va donner le tempo à la division féminine. Donc voilà, rendez-vous semaine prochaine pour un steel cage match bien brutal où les filles vont pouvoir se mettre sur la tronche. Allez, en parlant de cage. Judgment Day, Domino, interview, backstage avec Katie Kelly, avec Finn Balor, hein, les deux anciens amoureux, Finn Balor et Katie Kelly, donc, qui se retrouvent. D'ailleurs, c'était marrant parce que Katie Kelly, donc, elle pose une question à Finn et elle veut savoir leur réaction pour leur match et tout. Et après, je me suis dit, elle devrait. Ah, puis j'ai aussi une deuxième question. Et pourquoi tu m'as laissé tomber, t'sais. Pourquoi tu m'as quitté. Ça m'aurait bien fait marrer. Mais évidemment.
Et ça aurait été drôle. Ouais,
de façon un peu détournée, toi, mais un truc. Ou un truc du genre, est-ce que tu vas réussir à tenir plus de 6 mois avec la même personne cette fois-ci, ou un truc comme ça, tu sais, un truc en parlant de Damien Priest. Ou justement, en parlant de la semaine prochaine, quand il a abandonné Damien Priest, elle aurait pu faire une petite pique. Enfin bref, c'est moi, j'ai mon petit univers alternatif. Il se passe des choses. Ils sont prêts, Finn Balor est prêt, parce que ce soir, il sera dans le match pour le Contender US. Et puis ils se font interrompre par la Alpha Academy. Chad Gable dit que le Judgment Day dit ouais, qu'ils ont battu tout le monde, mais ce soir il y a la petite revanche vis-à-vis du match de la semaine dernière, donc entre le Judgment Day et Alpha Academy. Rhea Ripley dit à Gable de se calmer avant qu'elle fasse quelque chose qu'elle regrettera pas, d'ailleurs. Qu'elle a dit. C'est oui, plutôt non. Bien formulé, je trouvais que c'est rigolo. Et puis, Domino fait « Ouais, fais attention, hein. » Il confirme la balasse de la maman. Et Gable qui dit à Domino « La prochaine fois que tu seras en tôle, n'hésite pas à suivre une des formations en cours en ligne de l'Alpha Academy pour nous rejoindre. » Et Domino lui fait, il sort la blague, Domino fait « Ah, la prison, il n'y a rien de drôle dans la prison, c'est un truc. » Et puis Damien Priest fait « Cassez-vous. » Il dirait ouais. Parce qu'il a senti que voilà que ils ont venu embrouiller le pauvre Domino là. Allez, barrez-vous. C'était très drôle. Bon, le match.
Moi j'ai trouvé ça excellent encore.
C'était excellent. Le match s'en est suivi entre Judgment Day donc et la Alpha Academy. Un match bien solide avec à la fin Gable qui place le ankle lock sur Domino, Rhea qui monte sur le tablier pour distraire la.
Très bien vendu d'ailleurs j'ai trouvé.
Vu ça ouais, il a souffert. Il a souffert. Rhea qui est monté sur le tablier là pour faire distraction. Le choc slam de Damien Priest sur Gable et Dominique qui couvre Gable pour la victoire. Hein. Domino qui, c'est lui hein, qui fait les tombées. Hein. Domino qui est à la hauteur
oui,
des espoirs.
Ça ne t'a pas échappé.
Hein, ouais, qui est à la hauteur des espoirs que tout le monde a en lui. Donc bah voilà, encore une passe d'armes drôle et de Domino. Quoi, Judgment Day, c'est la garantie divertissement total.
Exactement, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. C'est vraiment Judgment Day, Alpha Academy, c'est devenu des piliers de Monday Night Raw. C'est-à-dire que ils sont au moins deux fois par show toutes les semaines. C'est toujours la garantie de segments qui sont marrants, divertissants, t'en retires toujours quelque chose. Tu reviens toujours avec une petite anecdote, un truc qui t'a fait sourire. C'est vraiment du super taf, quoi. Chad Gable et Otis sont parfaits. Le Judgment Day, c'est pilote automatique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que maintenant, ils sont tellement naturels, on va dire, dans leurs quatre personnages chacun, que ça roule tout seul, quoi. Donc, super petite altercation backstage. Altercation backstage, c'est très rigolo. De plus en plus, hein, ils jouent dessus, mais de manière assez fine et sympa. De plus en plus, hein, la Rhea Ripley qui menace tout le monde. Enfin, presque, c'est elle là, qui menace et qui intimide finalement, quels que soient les adversaires féminins ou masculins. C'est tout le temps elle qui joue le rôle d'intimidateur, intimidatrice, et je trouve ça assez marrant et assez fun à suivre. Et puis bah voilà, après ce petit match tag team, histoire de chauffer notre ami Domino avant la semaine prochaine, parce que il était rentré dans le gauntlet un petit peu par la petite porte, il avait gagné un petit peu presque par hasard en quelque sorte, et puis bah là voilà, du coup on le remet dans le grand bain, et donc on acte un peu d'une certaine manière aussi le fait que bah c'est lui qui a gagné le title shot, donc c'est lui qui va aller se battre pour les ceintures. Ça c'est aussi quelque chose qui a été officialisé cette semaine, hein, parce que on avait les visuels semaine prochaine Raw 30, Damien Priest et Domino contre les Usos, donc c'est officiel, c'est quand même un gros truc, hein. Finn Balor a l'air très cool avec ça, aucun problème, hein, vas-y mon Domino. Donc non, ça va être un grand moment, je pense.
Ouais, ça va être un grand moment. Et puis il y a aussi qu'est-ce qui se passe avec Otis Giscal? Je comprends pas, il y a une pop de ouf depuis 2-3 semaines, ah ouais, pour Otis. Parce que là, le public était un petit peu confus, hein. Ces deux équipes.
C'est compliqué, deux équipes de heel. Alors par contre,
pour lesquelles on peut avoir de l'attachement. Donc le public ne savait pas trop. Il y a eu des huées, il y a eu des encouragements. Et puis Otis, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une Otis section.
Écoute, c'est qu'il y a un moment, je pense que c'est plus fort que nous, entre guillemets. Enfin, de la même manière que, en quelque sorte, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois que. Inévitablement on encense la Alpha Academy toutes les semaines, on trouve qu'ils sont trop stylés et tout. Bah, il y a un moment, c'est plus fort que toi, ça a beau être des heels, ils sont tellement fun à suivre que je pense qu'il y a une pop naturelle qui se crée sur ces gars-là, quoi. Et tout particulièrement sur Otis qui a ce décalage incroyable il incarne un truc assez vraiment très très marrant, quoi. Ce ce gros bonhomme qui a pas de cou là, qui ressemble à
c'est
un énorme tronc.
Quoi,
ouais ouais et qui pourtant déjà a un catch qui est assez fun, qui a des interactions backstage qui est associé avec un mec qui se targue d'avoir un QI, un intellect supérieur et que du coup Otis il est de la même veine que lui et tout. Donc tout est un peu sur des décalages et avec Otis et ça fait que je pense que ça marche bien quoi.
Ouais, ça marche super bien et puis comme tu l'as dit hein, voilà ça fait quand même comme des mois que ces deux mecs nous enchantent, nous divertissent et voilà. Mais c'est juste que je me pose la question, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ces dernières semaines? Non, c'est juste la sympathie qui
Ouais, enfin moi je le vois comme ça. Après je sais pas.
T'as vraiment des chants Otis pour que le mec entre et du coup même il retrouve un peu son catch de babyface. Toi il fait le caterpillar, il refait tous les trucs fun.
Bien sûr. Et je pense que c'est pas complètement innocent. Et d'ailleurs, enfin ça ne t'aura peut-être pas échappé, mais pendant le match, la Alpha Academy était positionnée dans le coin des face. Mm-hmm. Alors c'est toujours est-ce que c'est anodin ou pas, je sais pas, mais en tout cas voilà, ils étaient face caméra, donc c'est traditionnellement l'endroit où l'équipe des babyface se positionne dans un match de catch. Donc écoute, peut-être des plans de prévus. En tout cas, s'ils veulent faire tourner face la Alpha Academy, ce sera très facile et très naturel à faire, donc ils auront pas trop à se forcer, je pense.
On entre dans le vortex du fun, ou plutôt le trou noir du fun, avec deux matchs qui sont suivis. Io Sky versus Maya Yim.
Ouais.
J'ai pas... Voilà, c'était...
Pas compris.
Donc avec...
Il y a des trucs comme ça, ils font des remplissages, je sais pas. Toujours intéressant de faire perdre tes championnes par équipe.
Voilà, cool. Donc la victoire de Maya Yim contre Io Sky, ouais, c'était assez naze avec Candice LeRae qui était aux abords et qui du coup s'est débarrassée.
Qui donc n'a pas disparu, elle. Tu vois, c'était la double.
Oui.
C'était le double coup de Dessos me concernant.
Allez. Ouais, effectivement, elle n'est pas partie s'occuper de son Johnny d'amour, donc elle est là et puis donc elle protège Maya Yim et puis ça n'avait aucun intérêt honnêtement. J'ai pas très bien compris pourquoi on avait ça, mais bon, ok. C'était le tour d'inventaire de la division féminine avant le Rumble probablement. On a eu un premier match officiel de Bronson Reed depuis son arrivée. Pas de mise dans cette histoire, simplement un Akira Tozawa qui va gratter un match de qualification pour le Rumble auprès d'Adam Pearce et qui va aussitôt regretter parce qu'il va tout simplement se faire écraser avec un énorme splash du Bronson Reed, qui chope un ticket. Pour le Rumble, du coup, bah oui, parce que c'était le match pour les deux.
J'imagine.
Ouais. Donc Bronson Reed va pouvoir se faire des énormes splashs pendant Rumble. Et, je vois bien faire un splash à l'extérieur du ring et du coup s'auto-éliminer. Bien faire un truc comme ça.
Ouais, ce serait rigolo ça. Ouais. Doublette de match un peu pourrave. Alors le premier tout particulièrement le premier, c'est vraiment la définition même du match random qui ne sert à rien pour personne, je trouve. Enfin, pour personne. Bon,
puis avec la jolie défaite des championnes tag team dès qu'elles sont en solo.
Je vois pas l'intérêt. Et alors, du coup, c'est quoi le game? C'est quoi le truc? Ça veut dire qu'il va y avoir Candice LeRae et Maya Yim qui vont défier les championnes par équipe.
Oui.
C'est vrai que c'est tellement... Ça pue la défaite, je trouve, ce genre de booking. Ils sont incapables de créer des histoires autour de ces ceintures. C'est toujours des équipes de briques et de broc chez les filles. C'est, tiens, vous deux, vous avez rien à faire, et ben vous allez devenir copines, et puis let's go. Et enfin, ouais, c'est vraiment un booking de loser, je trouve, ça. Ça manque tellement de, c'est même pas que ça manque d'ambition, enfin ça pue la fainéantise, mais encore pire que ça. Donc Io Sky qui a rien demandé à personne, elle qui bouffe une victoire, une défaite en 4 minutes gratos comme ça. Déjà que En effet, ça faisait un petit moment qu'elle faisait pas grand chose parce qu'elles étaient un petit peu, elles servaient surtout les intérêts de Bailey. Ouais, bon, pas très très malin. Et puis après, il y a eu ce match de Bronson Reed, alors qui m'a, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Akira Tozawa, je trouvais que c'était rigolo là quand il va réclamer son spot. Donc lui, manifestement, il fait partie des catcheurs qui n'ont pas le droit de s'auto-déclarer participant au Rumble. Il n'a pas eu cet honneur, donc il a dû aller demander son spot. Donc pourquoi pas, bon, ah, c'est la saison du Rumble, c'est comme ça, il y a des matchs de qualification et tout ça, il n'y a pas la place pour tout le monde, donc ok, vas-y, banco. Et alors moi, j'étais très curieux de voir Bronson Reed, et alors je sais pas, moi j'ai trouvé que hormis les 30 dernières secondes, ça m'a pas donné envie d'en voir beaucoup plus. Hein. J'ai trouvé que c'était très étrange parce que tu t'attends, a priori, vu le physique du bonhomme et vu son adversaire, tu t'attends à un maxi squash de la mort. Ouais. Et en fait, pendant 3 minutes, le mec, il a fait du catch au sol, des prises, des.
Fait une prise de soumission, mais en fait, je sais pas, il.
Mais grave.
Sur l'estomac du gars de Tozawa, il y avait aucune intensité.
À un moment il le prend, il le bloque au sol et tout. On avait l'impression qu'on était dans une phase de hit d'un match de 15 minutes où il faut prendre le temps et tout machin. Donc il y avait des phases un peu molles comme ça au sol. Je dis mais attends, mais je comprends pas. C'est son premier match à Raw. C'est une brute de la nature. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Et puis, il y a eu les 30 dernières secondes que j'ai trouvées assez impressionnantes, où d'un seul coup, il a commencé à envoyer des splashes, des coups de bélier à la volée en partant du tablier du ring et tout. Enfin, d'un seul coup, visuellement, c'était très cool. Mais j'ai pas compris les 3 minutes 30 précédentes.
Ça aurait dû commencer comme ça s'est terminé. Hop, powerbomb sur la barricade.
Ouais, ça aurait dû durer une minute. Surtout qu'Akira Tozawa, Akira Tozawa, il a bumpé comme un pro.
Oui,
fallait en profiter. Quoi.
Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a laissé perplexe. Ces 2 minutes au sol. Je dis, pardon, excusez-moi. Ils sont trompés dans le casting, là, c'est pas possible.
Non, mais du coup, c'est quoi? C'est un technicien, hein, c'est...
Oh, il sait tout faire. Allez, on retourne dans la division féminine. On la lâche pas, cette division, on va la sauver, Giscal. À la rescousse de la division féminine.
On va la sauver.
Alors, là, c'est important parce que c'est la championne. C'est la championne qui est de retour. Alors, les gens, j'aime bien, la WWE depuis des années, maintenant, quelques années, si t'es absent 2 semaines, quand tu reviens, c'est le grand retour. Et Bianca Belair, certes, qui avait été amochée il y a quelques semaines, fait son grand retour au ring après l'attaque d'Alexa Bliss il y a 2 semaines, justement. Donc finalement, ça va, tout allait bien. Tout le monde était tellement inquiet, Montez Ford était tellement inquiet, et finalement, tout va bien. Alors là, c'est pareil, la petite promo, pas forcément hyper inspirée au début.
La petite promo prout-prout,
vous m'avez manqué, prout-prout, je vous aime. C'était assez difficile à endurer, mais elle va affronter Alexa Bliss, parce que voilà, pour chaque risque encouru, il y a une récompense, et la récompense, c'est d'être la championne de Monday Night Raw, la championne du peuple aussi, hein. On se raccroche au public, on est là pour le public. Et Alexa Bliss débarque, après avoir été un petit peu provoquée par Bianca Belair, qui a les poches du shirt qui ressortent. Hein. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions sur le look de Bianca Belair en interne dans Ketchup. Mais c'est elle qui fait tout. Elle a le mérite de fabriquer et de coudre. Donc ça plaît ou ne ça plaît pas, mais peu importe. Alexa Bliss débarque, pas de problème, je vais continuer. Belair dit ouais, t'as peur de moi, parce que tu sais. T'as peur de moi parce que tu sais pas à quoi t'attendre, je suis une fille complètement instable, tu comprends. Le Royal Rumble approche. Et là, c'était trop chelou parce que, en fait, donc Alexa Bliss dit qu'elle va gagner sa place pour aller la défier au Rumble. Attends, pourquoi attendre? On n'a qu'à se donner rendez-vous au Rumble.
Ah bah. Ça, non, mais c'était original, hein. Enfin, moi j'ai trouvé, mais oui, en effet, c'est comme tu l'as dit, Alexa Bliss voulait prendre la route la plus compliquée, et en fait, Bianca Belair lui a offert sur un plateau.
Il y a une arnaque ou quoi, Alexa Bliss? Il y a une arnaque.
Ouais,
rendez-vous au Rumble, et donc, ok, c'est de rendez-vous.
What's the catch?
Ouais. C'est quoi l'arnaque? C'est quoi l'arnaque? Et l'autre, elle s'en va, et on peut aussi se mettre sur la tronche ce soir, si tu veux. Et là, elle commence à s'échanger des coups, ça se retrouve un peu dans la foule d'ailleurs. Et on est donc sur le floor, hein, dans la foule, au pied des gradins, et Bianca Belair installe 2 chaises. Vous voyez tous les gars de la, enfin les gens de la, les personnels de la sécurité de la salle, hein. Les vrais, les gens qui sont vraiment là pour assurer la sécurité, qui étaient là, qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop où elles vont. Et donc elles placent deux chaises, elles préparent le Kyoudi, et là une lumière bleue jaillit d'une des portes d'entrée au niveau du floor, donc au pied des gradins, par là où vous n'entrez, vous allez chercher votre petite binouze là à 15$, vous mettez 25% de tip parce que sinon on vous regarde bizarre. Et là l'Anclaudi qui a mis un beau pourboire, hein, quand même, débarque,
manifestement.
Il danse, ouais, j'ai donné un gros pourboire avec sa lumière bleue. Et donc tout le monde est interloqué, notamment Bianca Belair, et Bliss en profite pour placer un gros DDT. Et ça se termine comme ça, avec le Oncle Audi dansant dans sa lumière bleue jaillissante, qui donc se rapproche, hein, il est de plus en plus près là, il peut apparaître. Dès qu'il y a une porte, Oncle Audi peut apparaître, tout simplement.
C'est ça. C'est ça, écoute... Un petit peu comme, mais moi là, je serais moins sévère, mais un petit peu comme Bailey, Alexa Bliss, Bailey, Becky Lynch, ouais. Pardon. Il y avait un petit peu deux parties. Il y a eu cette ouverture de, encore une fois, pareil, de, c'est là où tu vois d'une certaine manière aussi un petit peu le petit gap de talent qu'il peut y avoir aussi, hein, entre les top stars, voilà, de la division féminine qui ouais, sur ces segments. Sur ces segments face caméra solo où il faut un petit peu envoyer de la cheap pop, il faut envoyer des poncifs un peu, des trucs, mais tout en restant hypant, intense et tout, c'est un peu difficile, voilà, tu vois. C'était Bianca Belair, elle est un peu retombée dans ses travers, promo salon de coiffure là, moi j'aime pas trop là, ça fait un peu meuf de la street là, qui c'est très pénible à écouter, je trouve. C'est pas très très intéressant, et je suis, bon, malheureusement c'est un peu son style, quoi. Enfin là, elle, je pense qu'il y a pas grand chose à espérer de plus là-dessus, mais par contre derrière, quand elle embraye sur de l'opposition babyface championne, fighting champion dominante et tout, qui a pas peur, qui a pas froid aux yeux et tout ça, je trouve qu'elle est vraiment bien. D'ailleurs, je trouve que c'est une des plus convaincantes là-dedans, pour le coup. Bianca Belair, je lui ferai aussi des compliments quand même. C'est que justement, quand elle est dans ce registre de vas-y, tu veux qu'on se la colle, on va se la coller, il n'y a pas de problème, tu vois. Enfin, elle, c'est toujours la première pour. Tu sais que dans son personnage, c'est ancré, c'est inscrit. Elle, s'il y a la bagarre et qu'il faut la chercher, tu vas la trouver. Et c'est la première à coller des bourre-pifs. Et ça, je trouve ça assez cool. Et c'est pour ça que je disais que c'était assez original d'une certaine manière. C'était qu'on était sur presque un booking inversé de la championne babyface, la challenger's heel, t'as la challenger's heel qui se fait alpaguer, donc qui arrive, qui dit parce que Bianca Belair qui lui avait dit vas-y viens Alexa Bliss, on a des comptes à régler. Donc elle arrive et t'as Bianca Alexa Bliss qui lui fait son truc gratuit, gratos, ouais, t'as peur de moi, et je vais gagner le Rumble, et je viendrai t'affronter, et je prouverai à tout le monde que c'est moi la championne. Et là, ce côté, pas de problème, tu veux un title shot, mais je te le donne, et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était assez stylé. Mais pas besoin d'attendre le Rumble, ma fille, pourquoi tu te fais chier, vas-y, moi je te prends, quand tu veux, donc au final, elle boucle le match pour le Rumble, et puis après, elle rajoute vas-y, puis même, on peut se foutre aussi sur la gueule ce soir, il n'y a pas de problème, je suis libre. Donc j'ai trouvé que c'est bien monté en intensité, c'était bien, c'est parti mollo, et puis ça finit bien chaud, ça part dans les gradins, ça se cogne et tout, il y a ce petit développement avec l'oncle Audi, globalement, je trouvais que le segment était bien monté en puissance. Et puis maintenant, voilà, il y a un title shot de booké pour le Rumble, donc on verra si c'est le mauvais calcul pour Alexa Bliss, qui d'une certaine manière, enfin voilà, qui est-ce qu'elle va avoir le droit de rentrer dans le Royal Rumble aussi, j'imagine, parce que de toute façon ils ont pas assez de filles pour faire ça, mais en tout cas sur le papier, tu pourrais te, c'est intéressant, je trouve, scénaristiquement parlant, c'était bien fichu, donc je trouvais que le développement de cette semaine était pas mal.
Oui, voilà. Tu l'as dit, un démarrage un petit peu poussif, et puis après, une fois qu'elles avaient chacune bien accroché leur wagon ensemble, il y a eu de la baston, il y a eu l'oncle Audi qui arrivait par une autre porte cette fois-ci, ça c'était plutôt rigolo de le voir, cette lumière bleue qui doit jaillir, ça doit être sympa quand t'es dans les gradins, mais qu'est-ce qui se passe ? Il vient faire sa petite danse, et du coup il y a de la baston un petit peu au milieu du public, ça c'était cool. Et puis surtout, évidemment que cette affiche, faut que ce match doit avoir lieu au Rumble, puisque c'est Rhea Ripley qui va gagner le Rumble. Donc autant se débarrasser de ce match-là dès maintenant. Voilà hein, on n'est pas
con. Bah oui, bah oui.
On est où là? Allez, on arrive direction le main event, si j'ai rien oublié cette fois. Hein, c'est une semaine, j'avais oublié, du coup.
C'est bon,
cette fois-ci, tu valides
ah. C'est bon, on a okay. tout.
Donc voilà, après quelques interviews backstage, des petites vidéos de tous les participants, Seth Rollins, Finn Balor, Le Miz, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Happy Baron Corbin, accompagné de JBL et Bobby Lashley vont se mettre sur la nouille dans un six-man pack elimination match. Gros match de main event. À la double façon WWE, ils savaient faire les bonnes formules. On a quand même des, alors voilà, on a des grosses stars, des vétérans, on a des mecs, ouais, c'est des vétérans tous ces gens-là, hein. C'est des vétérans tout simplement qui sont là, tous les mecs qui ont déjà goûté au sommet, y compris Baron Corbin qui en plus est bien accompagné ce soir. Malheureusement pour le Miz, c'est lui hein, qui va se faire éliminer en premier, parce qu'après avoir, alors ça me fait marrer le Miz qui sent encore les yes kicks là. Yes kick, voilà, c'est la foule, ouais. Toujours là. Le figure fort sur Dolph Ziggler.
Ah bah il y a des trucs comme ça, le figure fort
hein, qui a chopé de Ric Flair, qui a hommage, hein, hommage à tout le monde de la part du Miz. Ziggler qui renverse sa soumission et Rollins qui est remonté sur le ring entre temps et qui fait le stomp sur le Miz pour le compte de 3 et la élimination donc de A-Lister The Miz. Ziggler, lui, qui va se faire éliminer par la suite par le même Seth Rollins, sauf que cette fois-ci, alors Ziggler, il a balancé des super kicks un peu à tout le monde juste avant, et Rollins vient le cueillir avec un pedigree pour le compte de 3. Alors après, il y a eu pas mal de séquences où notamment il s'en était pris à c'était, je crois, Bobby Lashley, hein, Bobby Lashley qui est un peu la grosse menace hein, de ce match, la force brute qui dégomme, donc il y a eu pas mal d'alliances. De circonstances tout au long du match qui était plutôt sympa d'ailleurs j'ai trouvé on a eu notamment un Ziggler et Seth Rollins qui se regardaient en mode bon bah voilà on élimine les méchants d'ailleurs c'est assez marrant de Ziggler une espèce de partition de babyface là depuis le début de l'épisode que c'était assez sympa. Sur la fin, on arrive vers la fin, Bobby Lashley qui se prépare pour placer son Hurtlock, mais Omos et MVP arrivent là, ils sont ringside, MVP qui vient encore foutre le bordel, on n'a toujours pas compris quelles étaient ses intentions,
oui.
Bordel, il casse les couilles celui-ci. Corbin fait une énorme clothesline à Bobby Lashley qui roule dans tous les sens, mais Finn Balor qui place sa sling blade, le dropkick sur Bobby Lashley et le coup de grâce sur Bobby Lashley, mais Rollins remonte comme un sacripant et il place un stomp sur Balor pour le compte de 3, donc c'est Rollins qui élimine tout le monde. Pendant ce temps-là, n'oublions pas, au commentaire, on a Theory, Austin Theory, notre champion,
oui.
Qui s'est fait embrouiller, alors j'avoue que je ne sais plus, par Rollins ou par Ziggler ? À un moment donné,
Il s'est fait embrouiller par Rollins parce que Rollins à un moment qui fait le show, qui prend une petite bouteille d'eau, qui boit un coup et qui lui crache dessus.
Ah ouais, c'est ça.
Pour
l'exciter. Avec la petite teinture blonde de Rollins sur le cou, je dis bah attends, je comprends pas, c'est Ziggler qui aura embrouillé sur lui, c'est un peu chelou toi. Eh bien non, c'est bien Rollins là qui nettoie. Hein. Il a déjà viré éliminé trois hommes. Il est chaud bouillant. Mais il se fait attraper par Omos, et là on a une séquence super sympa, j'ai trouvé, avec Omos qui vient vraiment foutre le bordel dans le match, quoi. Il balance Rollins sur la table des commentateurs. Lashley, pendant ce temps-là, il fait le spear sur Corbin pour le compte de 3, donc Corbin est éliminé. Lashley qui dit à Omos, mais qu'est-ce que tu viens foutre, MVP, c'est quoi cet embrouille? Theory en profite pour frapper Bobby Lashley avec son titre, avec la ceinture. Du coup, Theory, il se fait choper par Omos, hein, il fout l'embrouille, et il prépare le choc slam, mais Theory le bloque, et Rollins, là, c'est un énorme stomp sur Omos sur la table des commentateurs, donc on a une espèce de petite alliance là, temporaire un peu entre Theory et Seth Rollins pour éliminer le géant nigérien. Rollins retourne sur le ring, il fait un super kick à MVP au passage, mais il se fait cueillir par Bobby Lashley avec un énorme spear pour le compte de 3. Bobby Lashley ira donc affronter Theory la semaine prochaine à Raw 30, enfin XXXX plutôt on va dire, triple X, pour le titre US. Bon, la formule gagnante habituelle de Monday Night Raw pour un match All-Star hein, quasiment. Là, on est à Monday Night Raw, c'est un match All-Star. Hein. Bon, il y avait un peu de mid-card.
Ouais, quand même, il y avait du beau monde. Ouais, mais c'est de la midcard prestigieuse, tu vois, genre le Miz, Ziggler, c'est quand même, c'est de la midcard, mais c'est des mecs, bah voilà, d'ailleurs, ils avaient bien accentué pendant toute l'émission, en disant que c'était que des anciens champions, et que du coup, c'était du lourd et tout, et donc, ouais, globalement, c'était quand même une très très belle affiche. Formule éculée, mais, enfin non, pas éculée, mais en tout cas, justement, enfin formule connue de tous, mais toujours extrêmement efficace. Moi, j'ai adoré ce main event, je trouvais super fun à suivre, extrêmement bien construit, beaucoup de petites, en fait, beaucoup de petites scénettes, j'ai trouvé c'était vraiment, c'était super intéressant et super rigolo à regarder, parce que c'était toujours... Bah voilà, hors du ring, dans le ring, un enchaînement de plein de petites histoires, de plein de petits, petits enchaînements, avec le Miz en début de match notamment aussi, avec Rollins, tu l'as dit, qui était impliqué un peu partout. Donc c'était globalement... Puis quand le MVP et Omos sont arrivés, pareil, ils ont mine de rien, ils ont pas mal ajouté au match aussi, j'ai trouvé, en s'impliquant un peu partout et en étant vraiment des vrais troubles faits. Donc, d'ailleurs, le rôle de MVP reste toujours, comme tu l'as dit, à clarifier. Et la victoire de Bobby Lashley, sans doute, permettra peut-être de continuer à raconter certaines choses. Donc non, globalement, c'était un super match. Je sais pas trop quoi... Enfin, si, je sais un petit peu quoi penser du vainqueur, mais c'est vrai que je suis un peu perplexe. C'était un petit peu ce que je craignais quand j'avais vu la line-up du Six-Pack Challenge, parce que c'est vrai
qui est-ce qu'ils vont envoyer, quoi?
Qui est-ce qu'ils vont envoyer parce que bon, voilà, Seth Rollins, ça y est, là, enfin, ils ont bien exploité la feud. Alors, il y aura forcément toujours des bons matchs à faire entre les deux. Bobby Lashley, c'était d'ailleurs ce qu'on s'était un petit peu dit, je sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, quand on avait vu Bobby Lashley revenir, c'était la semaine dernière d'ailleurs, je crois, on l'avait vu revenir et directement se réimpliquer, on va dire, avec Theory et Rollins, on s'est dit, putain, encore, attends, Bobby, Theory, il va jamais pouvoir s'en débarrasser de ce mec-là, il est toujours dans les parages. Et en même temps, après, quand tu regardais les trucs à côté, tu disais, non, bon, ça, évidemment, ça va pas être Ziggler, évidemment, ça va pas être le Miz, Finn Balor, je sais pas, est-ce que t'avais vraiment envie de l'impliquer là-dedans? Moi, je pense que ça aurait été une erreur, parce que t'as pas spécialement envie de lui couper les ailes à Finn Balor non plus, avec ce qui se passe à côté, je trouvais ça cool. Donc en fait, bah, au bout d'un moment, quand tu regardais un peu tout, bon, Baron Corbin aussi, j'y croyais pas, parce que c'est pas du tout le match que t'as envie de construire. Et donc en fait, on se retrouvait encore à se dire, bah ouais, putain, ça va être Seth Rollins ou Bobby Lashley. Ouais. Et je dis pas que ça me fait un peu chier, mais bon, quand même, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on commence à aller sur autre chose, quoi. Austin Theory, ça y est, il a fait le taf avec ces deux-là, je trouve. Ouais. Donc je suis pas méga enthousiaste, hein, quand même, de ce Bobby Lashley Austin Theory pour la semaine prochaine. Je trouve que ils se sont déjà affrontés quoi deux ou trois fois presque en
dans
solo.
Ouais, avec différentes configurations aussi dans des triple frites. Voilà.
Ouais, l'un champion, pas champion, ouais. Tout ça. Donc ouais, je suis à la fois un peu déçu de ça et en même temps content parce que ça veut dire que enfin ils vont continuer à mettre quand même. Du Theory face à du très très lourd et puis il y a aussi ce truc avec MVP en toile de fond qui on attend de voir aussi ce que ça veut dire pour Bobby Lashley, donc il y a des trucs quand même mais bon voilà je sais pas, je suis un peu frustré.
Ouais, bah, j'étais comme toi, hein, en voyant le line-up et le match déroulé, je me dis mais attends, qui ils vont mettre et je me dis bah ça va être Bobby Lashley, quoi,
choix,
parce
quoi.
Que c'est gros top babyface, pour les mêmes raisons que tu as déjà énoncé. Et bon, je me dis, bon, voilà, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour un rose spécial. Ça fait une belle affiche, ça fait une belle affiche, quoi. Toi,
ils veulent vraiment mettre le paquet sur l'Euro 30. Donc,
et tu te dis, bon, comment le match va se finir, toi? Tu sens déjà. Je sais pas, la victoire va être pour Theory, c'est obligatoirement, mais.
Ouais, voilà, mais tu vois, je trouve ça dommage qu'il... Parce que là, il se rebook un petit peu dans un. Il se book dans un corner un peu,
ouais,
là, comme ils disent, où t'as Bobby Lashley qui est sur le retour, qui est sur une bonne pente et tout, donc tu le vois difficilement perdre clean. Et en même temps, Austin Theory, je trouve que c'est le moment d'enfoncer le clou et de lui donner des belles victoires. Donc, après, est-ce qu'ils vont avoir les coronas de faire gagner Austin Theory contre Bobby Lashley de manière très impressionnante? Je sais pas, mais ça a pas l'air trop d'être quand même la direction un peu de l'histoire.
Il va y avoir de l'embrouille, évidemment, avec MVP et compagnie. Et puis soit une victoire de Theory grâce à des diversions, soit de la DQ, mais C'est vrai qu'ils sont. Ça, c'est bizarre. En même temps, on aurait bien voulu voir quelque chose d'un peu plus frais, mais visiblement, ils n'avaient rien de frais à nous proposer, quoi.
Et puis, non, ils n'avaient rien. Il n'y a rien sur le
coup. En même temps, comme c'est un rôle spécial, tu ne veux pas mettre de. Tu veux pas mettre Happy Corbin, quoi. Donc.
Non, et puis de toute façon, Corbin, théorie, ça sera impossible comme affiche.
Faut mettre un gros babyface quand même en face.
Et puis, tu vois, je te dis, Ziggler, c'est trop. Enfin, maintenant, c'est un peu trop petit pour un Raw comme ça.
Ouais, c'est ça. Si ça avait pas été un Raw spécial, envoyer Ziggler, ça aurait été pas mal parce qu'en plus, il y avait eu pas mal d'embrouilles un peu entre les deux qui n'avaient jamais rien donné. Ça aurait été sympa, un petit match de défense de titre en weekly. Mais là, comme c'est un Raw très spécial à Philadelphie.
Ouais, et puis là, ça a l'air d'être quand même traité comme un pay-per-view, hein, parce que c'est. Voilà, la semaine prochaine, faut quand même se dire qu'on va avoir Bayley Becky Lynch dans un steel cage match, on va avoir les Usos contre le Judgment Day pour le titre, Bobby Lashley contre Austin Theory pour le titre, cérémonie de l'acknowledgement de Roman Reigns, là où il va y avoir sans doute du bordel, et faut se dire que, à mon avis, Kevin Owens va sans doute nous jouer une partition très Steve Austinienne là-dedans pour foutre la merde. Donc ça va être du très très lourd, donc c'est vrai que bon, tu peux difficilement... booker quelque chose d'un peu tiédasse, quoi.
Ouais, évidemment. Bon, en parlant de tiédasse, c'est l'heure du mot de la fin. C'est l'heure de partager.
Bah oui.
Top pour flapper ta note pour ce Monday Night Raw. Voilà, on est à 2 semaines du Royal Rumble. On est à 1 semaine de ce spécial Raw Triple X. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh ben écoute, j'en ai pensé globalement du bien. C'est mieux que la semaine dernière, clairement. Et c'est mieux que la semaine dernière, alors que paradoxalement, j'ai sans doute beaucoup plus de flop potentiel que la semaine dernière. En fait, c'est la semaine dernière, on avait eu un Raw très très mid, très 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 moyen, avec des segments où tu pouvais difficilement dire que c'était mauvais à chaque fois, difficilement dire que c'était fantastique aussi. Mais globalement, voilà, t'avais un Raw mou du genou qui n'avançait pas grand chose. Là, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais même au niveau des bas, j'avais vraiment l'impression de regarder une émission qui servait à quelque chose, où il se passait des trucs, quoi. Enfin, voilà, il y avait des événements, il y avait des développements, il y avait des trucs qui font que, bah ouais, si je regarde la semaine prochaine et que j'ai pas vu ce rôle-là, bah, je suis un petit peu paumé. Et donc ça, j'aime bien. Je trouvais que c'était un rôle qui était assez fun à suivre. Et donc, pour ça, je vais lui mettre un 3,25, parce que j'ai trouvé que, ouais, c'était bien plus encourageant. Ça reste un peu léger à mon goût quand même pour une road to Rumble, mais bon, voilà, je pense qu'il y a ce caillou dans la chaussure là, ce Raw 30 qui fait que ils étaient un petit peu focalisés là-dessus, donc le Rumble était presque en toile de fond en quelque sorte, hein, pas vraiment au centre de toutes les discussions, donc ce serait presque un flop potentiel, mais le flop, je vais quand même le garder pour Bayley et Becky Lynch et ce début de promo qui m'a un petit peu cassé les bonbons parce que, pas parce que c'était nul, mais parce que je trouve que c'est pas normal pour deux nanas comme ça de proposer quelque chose d'aussi faiblard et de pas être capable de retourner un peu le truc. On en a déjà parlé, mais voilà, je trouve qu'elles ont des. On est en droit d'attendre beaucoup, beaucoup plus d'elles. Et j'ai trouvé que c'était un petit raté, et je suis particulièrement déçu de Becky Lynch qui, je trouve, ne m'a pas habitué à ça, quoi. Donc ça sera mon flop. Et puis bah, mon top, je ne peux pas, encore une fois, le donner à Domino et à ses copains, et à cette passe d'armes en début d'émission avec les Usos. Et vraiment, quand j'ai trouvé que quand il a pris le micro et qu'il a commencé à faire là, son petit... Mais qu'est-ce que je sens et tout. Voilà, là, je me suis dit, tu sais, je me suis reculé dans mon siège.
Accrochez-vous.
Ah putain, là, on va se marrer. Tu vois. Là, on va
relevez
se marrer.
Relevez vos tablettes.
Donc, non, franchement, ouais, relevez vos tablettes, préparez-vous au décollage. Et ça n'a pas loupé. Enfin, vraiment, je me suis beaucoup éclaté. Oui. Je prends énormément de plaisir à suivre ce qu'ils font, et ce sera clairement. Le encore une fois, le petit rayon de soleil de cette émission, c'était extrêmement fun, donc c'est mon top.
Ok, bah moi mon flop, j'aurais bien donné à Bayley et Becky, mais comme tu t'en es chargé, je vais le donner à MVP, qui m'a vendu qui m'a teasé un truc de ouf.
Blue balls.
Rien du tout, franchement, c'est pas normal de faire ça. On peut pas teaser un truc et en fait il se passe rien. Non, c'est pas correct. Ça ne se fait pas. Et puis pour mon top, écoute, je vais le donner au Judgment Day dans son œuvre globale qui, tout au long de cet épisode de Monday Night Raw, ils étaient partout. Ils étaient quand même dans deux matchs, dans plein de séquences différentes. Ils s'embrouillent avec plein de gens en même temps. On compte sur eux pour les héros importants. On compte sur eux pour le main event. On compte sur eux pour nous faire rire. Pour nous faire pleurer, peut-être, même, je ne sais pas, peut-être il va se passer quelque chose, pour nous divertir. Et franchement, voilà, c'est la quintessence, voilà. C'est le catch. C'est ça qu'on regarde. Voilà, le Judgment Day, c'est. Moi, c'est le. Ça représente le weekly, toi. Si tu devais représenter le weekly. Qu'est-ce que c'est un weekly? Ce serait le Judgment Day, toi.
C'est ce que j'allais te dire, c'est vraiment, ça représente à merveille, je trouve, ce que tu es en droit d'attendre dans des émissions hebdomadaires de catch. Quoi. C'est la synthèse du divertissement, du catch, du fun. C'est ça, quoi. C'est ça qu'on a. C'est ce genre de truc qu'on a.
Pour ma note, un 3,25 comme mon ami Giscard, je recopie, voilà, hop, et comme ça c'est fait. Allez Giscard, je te remercie encore d'avoir été avec moi pour cet épisode de Monday Night Raw.
Bon, un grand plaisir.
Vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous nous retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à nous partager vos tops, vos flottes et vos notes et à nous mettre un petit pouce vers le haut. Les réseaux sociaux, Twitter, Catch Up CDC, Instagram et Facebook, Catch Up CDC également. Le lien vers notre Discord est dans la description. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour l'analyse de SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut!
Ciao tout le monde!
Bah allez, faut qu'on enregistre, parce qu'après, faut que j'aille chercher mon drive. Là.
Ouais, non mais moi aussi.
Rendez-vous à l'Intermarché, alors on se retrouve devant l'Intermarché pour récupérer la commande.
Ouais, non mais moi j'ai les saucisses et tout ça à acheter là.